Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est entre 11h et midi, comme tous les dimanches avec Maurice Sefti. Maurice, bonjour.
Bonjour, l'heure de la sortie du marché, l'heure où les femmes sont lascives et sont belles là-bas, du côté de Tehuantepec.
Nous étions à Villahermosa dimanche dernier.
Là, on a envie d'en sortir très vite d'ailleurs.
Oui. Mm-hmm. Là, on se dirige du côté de Juchitán, c'est ça ?
Juchitán, c'est la ville qui précède Tehuantepec. Mm-hmm. Et Tehuantepec, je le disais tout à l'heure, c'est ce côté lascif. Il y a du tropique, mais c'est aussi l'endroit le plus resserré. C'est un peu comme la taille d'une femme. Si vous prenez le Mexique, c'est l'endroit où tout à coup on sent les deux mers à la fois, le côté pacifique, le côté atlantique. C'est un endroit qui m'a toujours fait rêver. La première fois où j'y suis allé, j'avais 20 ans. Et je ne sais pas, il y a des soirs comme ça où on a envie de bouger. J'étais dans la capitale et je vous assure, sur un véritable coup de tête, je suis sorti de chez moi.
Vous étiez à Mexico ?
Je vivais à Mexico mm-hmm. déjà.
C'est à combien de kilomètres environ de...
C'est à... Bonne question. C'est au moins à 800 ou 900 kilomètres.
Ah,
Oaxaca est à 600 et quelques. L'isthme, si on descend jusqu'à Tuxtla, on est à 1000 kilomètres. Donc ça va faire dans les 800, grosso modo. Je peux me tromper de quelques kilomètres, mais c'est 800 kilomètres de la capitale. Mm-hmm. Et c'était juste avant les fêtes. Et en l'occurrence, il se passe des choses assez curieuses au moment des fêtes du côté de Oaxaca. Il y a particulièrement... c'est une fête un peu cochonne, un peu coquine. C'est celle des radis. On peut prendre un peu d'avance.
La fête des radis.
La fête des radis, ça s'appelle la fête des radis. Elle a lieu le 23 décembre et on prépare cela pratiquement pendant tout le mois de décembre. Et c'était sur les commentaires d'une dame d'un certain âge qui m'avait dit « Écoutez, j'ai un cousin qui, etc. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas à Oaxaca ? On y mange des buñuelos, c'est-à-dire des merveilles, et puis on met ça dans les assiettes, on les jette en arrière, on les casse, on met du miel par-dessus juste avant de les consommer. »
On connaissait les Russes avec le...
C'est totalement la manière russe. Ça se fait. Il y a des tonnes de céramique brisée dans les rues de Oaxaca le 22, le 23 décembre, juste avant Noël. Et la fête des radis, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc il y a quelques années, ça va faire une bonne vingtaine d'années, que j'ai vécu sur place de façon un peu curieuse. Parce que lorsqu'on imagine ce qu'est un radis, ben pour nous c'est une petite chose rouge avec un peu de blanc au bout, une petite queue sympathique qui s'effiloche, et puis quelque chose de vert en dessus qui sort de la terre du côté du rouge justement qui était touché par le soleil. Or, le soleil de Oaxaca est un soleil qui, lorsqu'il est en même temps aidé par la pluie, permet aux radis locaux de pousser de façon beaucoup plus étrange et beaucoup plus forte et beaucoup plus ample que chez nous.
Or, un radis... C'est des radis géants.
Ah, ce sont des radis géants, mais lorsqu'ils sont géants,
en fait,
tout à coup...
on les laisse pousser beaucoup plus longtemps.
Non seulement ils poussent plus longtemps, mais en plus, ils vont se déterminer volontairement à se dire « si je n'avais pas seulement qu'une racine, ou si je pouvais créer quelque chose d'un peu curieux. » Alors, ce sont souvent des radis jumeaux, c'est des radis doubles. Alors, vous avez le début de la poussée, qui correspond un peu à, qu'est-ce que je veux dire, à quelque chose de calipige, si on veut être un peu correct, c'est-à-dire une forme de hanche bien large, comme cela. Et puis tout à coup, au lieu d'avoir qu'une seule finalité pointue, ben vous en avez deux. Et puis ces deux-là, sous terre, elles se racontent des histoires, elles commencent à tournicoter, et voilà que les deux se sont croisées par hasard. Une a passé carrément le genou par-dessus la jambe de l'autre, et puis... lorsque vous déterrez le radis, ben vous avez la surprise de vous dire, tiens, ça a quelque chose de, pourquoi pas, d'un tantinet érotique.
Et donc ça se mange, ça ?
Ben, ça peut se manger, mais ça se présente surtout. Donc le 23 décembre, juste avant Noël.
C'est-à-dire, c'est le mâle qui présente ça ?
Non, on a un marché spécifique, une sorte de présentation.
Il n'avait rien compris. Donc.
Où les habitants de la vallée, volontairement, vont déterrer leur radis pour essayer de trouver les radis les plus coquins qui soient. Mmh. Et on a donc une présentation, la fête des radis, c'est vraiment la présentation de ces radis les plus taquins qui soient. Alors il y a du rouge, il y a du blanc, et c'est vrai que la nature fait des fois les choses étranges. Alors c'est une façon de s'amuser, c'est un peu la fin de ce qu'on appelle les posadas, qui ont commencé en principe au moment de la fête de Guadeloupe, qui a lieu le 12 décembre. Et les posadas, ce sont des visites de maison en maison, on casse les piñatas, on fait la fête tous les soirs, on tend un fil à travers la rue, les enfants ont les yeux bandés, ils cassent tout cela, on laisse tomber des cacahuètes et des bonbons lorsqu'ils ont réussi à casser la jarre qui elle-même est décorée par du papier. On en a peut-être déjà parlé, c'est une fête assez connue. Mm-hmm. Et puis là, quand on arrive au 23 décembre, eh bien c'est vraiment l'accumulation de soirs de fête avec cette attente de Noël, quelque chose de très sacré, de très recueilli. Mais attention, on est capable aussi de faire sauter des milliers de pétards.
Et
la façon de s'amuser, même sur le plan religieux, au Mexique est parfois étrange. Alors, c'est une fête qui doit être assez ancienne, je n'en connais pas vraiment les origines, elle est peut-être même précolombienne, mais elle correspond à cette fête de la lumière, à cette fête du changement, à cette fête de l'obscurité surtout. C'est-à-dire, c'est le moment de l'année où la nuit est la plus longue, et finalement, on doit lutter contre cette nuit qui risque de nous enrober, de nous dévorer, de nous manger, de nous faire perdre la vie. Et l'histoire des radis, ben, qu'on le veuille ou non, ça a aussi cette connotation, j'ai dit érotique, mais l'érotisme, c'est la vie, c'est la naissance, c'est la renaissance. Donc, même en tirant la chose un peu par les cheveux, pour ne pas dire par le radis, eh bien, il doit y avoir une connotation ou une liaison possible à travers cette idée de la fécondité, finalement. Mmh. Alors, je ne sais pas pourquoi on est parti sur les radis, mais c'est parce que j'évoquais la taille...
Non, en fait, on partait sur la fête. Hein.
Oui, c'était surtout par rapport à la taille de ce Mexique, qui était l'isthme de Tehuantepec, qui rappelle ce côté un peu féminin. Et j'étais parti sur un coup de tête, c'est-à-dire que, comme ça, là, au début décembre, après avoir fait la fête de Guadeloupe, cette dame d'un certain âge me dit « J'ai des cousins, je suis de Oaxaca, ce sont des gens très chaleureux, ce sont des gens peut-être un peu plus petits, tous ceux qui vivent dans l'état de Oaxaca. Il faut le dire, c'est l'état le plus grand. » Sur le plan indigène de tout le Mexique. Alors, sur les ondes, c'est des fois difficile d'évoquer un état comme celui-ci, mais quand on voit la forme du Mexique, tout le monde connaît un peu cette forme qui ressemble à une corne d'abondance et qui termine par le Yucatan, et puis dessous, comme s'il y avait une cascade qui sortait de la corne, vous avez le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, jusqu'au Panama. Et en fait, lorsqu'on serre la taille du Mexique pour arriver sur cet isthme de Tehuantepec, eh bien, on suit incontestablement cette épine dorsale qui est la cordillère, enfin ce qu'on appelle la Sierra Madre, qui elle descend des États-Unis et longe sans arrêt le côté pacifique avant d'être un peu plus au centre du côté de Mexico et va justement du côté de Oaxaca continuer à bouillonner ou en tout cas à monter jusqu'à une certaine altitude et créer des canyons et des routes extrêmement difficiles avant d'arriver sur l'isthme lui-même qui s'écrase doucement, cet isthme qu'on a failli creuser pour en faire un canal, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, et Tehuantepec c'est le lieu clé, on sent bien qu'on passe quelque chose et on en reparlera sur le plan historique, c'est assez fascinant de voir ce qu'a été Tehuantepec au 19e siècle, avec un train, avec une histoire, avec le fait de pouvoir traverser sans aucune difficulté, disons de l'Atlantique surtout, au Pacifique. Là, je pense à la ruée vers l'or, le moment où San Francisco était très à la mode, où tout à coup on découvrait le Western, et surtout cette route de l'Ouest qui est devenue souvent une voie maritime. On partait de la Nouvelle-Orléans, on pouvait traverser à Tehuantepec, mais on pouvait descendre beaucoup plus bas jusqu'au Nicaragua, traverser le Rio San Juan, arriver dans le lac Nicaragua, remonter jusqu'à Managua, et puis ensuite... ou même avant, jusqu'à Granada, traverser, il y avait une vingtaine de kilomètres, et voilà qu'on se trouvait dans le Pacifique. C'est un peu le même phénomène qui se répète ensuite sur Panama. Mm-hmm. Donc on a trois possibilités de traverser de l'Amérique qui sont très courtes, et ça valait le voyage, ça valait le fait de descendre en bateau, de reprendre des bateaux à aubes qui ont été par exemple sur le Rio San Juan que j'évoquais pour le Nicaragua. C'était des traversées qui coûtaient beaucoup moins cher que de partir avec les roulottes, les Indiens, les dangers du Far West. Et au moment de sous terre...
Toujours ces traversées ?
Oui, il y a toujours un train brinque-ballon qui ne fonctionne plus très bien. Et tout au bout de la voie, il n'y a pas seulement Tehuantepec, il y avait Salina Cruz, qui est une véritable ville chinoise que j'évoquerai aussi parce qu'il y a un esprit assez curieux. On sent la ruine. J'ai encore vu, il y a 20 ans, ça disparaît très vite.
Une ville chinoise ?
Totalement chinoise, parce que les trains...
Mais il y avait beaucoup de Chinois en Amérique et...
tout le long de la côte pacifique. Ils ont été au 19e siècle, surtout vers la fin du 19e siècle, les Chinois ont été les constructeurs voués au chemin de fer. Des millions sont morts au Pérou, des centaines de milliers sont morts au Mexique, des centaines de milliers ont survécu à San Francisco. Et c'est toujours pour les mêmes raisons qu'on les retrouve sur cette côte. Ils ont été des travailleurs très bon marché. Si on a l'œil un peu bridé dans le coin, si on a des mélanges et des métissages très curieux, n'oubliez pas, je suis toujours à la taille de celle de Tehuantepec. Je n'ai toujours pas expliqué mon coup de tête, mais nous allons descendre vers le sud et nous allons connaître.
I'm not feeling right.
Court, Maurice, tout à l'heure.
Ah oui,
court.
Mais alors par rapport au rythme lascif et à la taille des femmes de Tehuantepec, là, vous avez fait fort. Mais,
donc, on se dirige donc du côté de Juchitán.
C'est-à-dire que je partais mentalement de Mexico pour faire le chemin inverse.
Est-ce qu'on a pensé la Venta parce que j'ai la carte sous les yeux
hein. La Venta, c'est le site dont on a beaucoup parlé par rapport aux Olmecs en sortant de Villahermosa. On peut s'y arrêter en montant, bien sûr, parce que c'est un site qui est à nouveau visitable. Je dirais qu'il n'a rien à voir avec l'idée de l'isthme que nous évoquons. La Venta, c'est vraiment la mégapole des premières civilisations, de la première civilisation qui est celle des Olmecs, avec une pyramide qui a une forme de volcan et qui monte ainsi vers le ciel une trentaine de mètres de hauteur avec l'impression qu'on retrouve un cône volcanique. Or, quand on est dans l'isthme, c'est-à-dire lorsqu'on a traversé déjà par la route aujourd'hui depuis La Venta, depuis Villahermosa, il faut vraiment traverser, c'est assez montagneux, c'est assez long, vous allez traverser pour vous retrouver du côté pacifique. Ça n'est pas la route la plus courte, je veux dire sur le plan physique, ça n'est pas l'endroit le plus resserré du Mexique qu'on utilise aujourd'hui pour la traverser. Le train le faisait bien sûr et il partait de Coatzacoalcos que nous avons évoqué avec un énorme pont sur ces rivières elles-mêmes très lascives et marécageuses et de l'autre côté eh bien, il y a au contraire cette ville de Juchitán. Oh, c'est petit, c'est une quinzaine de milliers d'habitants. Tehuantepec c'est à peine le double visuellement, même s'il y a plus d'habitants lorsqu'on prend la banlieue, mais ce sont des endroits qui ont été clés au 19e et je disais que mon escapade de Mexico m'avait poussé jusqu'à Oaxaca. J'avais visité le lieu, on en parlera parce que c'est vraiment un sujet, Oaxaca, c'est un endroit où on voudrait vivre et rester. Et après la fête des radis, je me suis dit, tiens, c'est la fin de l'année, il y a de grandes fêtes du côté de Tehuantepec tout au début de l'année, je vais descendre. Seul, je prends mon bus, je monte dans le bus, et bon, ça vous prend encore quelques bonnes heures depuis Oaxaca, parce que c'est une route très difficile, et arrivé à Juchitán, je descends du bus, et je me dis, tiens, là, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Parce que au début de l'année, c'est la même chose pour Tehuantepec, on a, disons, à partir du 1er janvier, et surtout du 20 au 25 janvier, les voyages sont lents, on prend son temps, eh bien, il y a des fêtes qui sont les fêtes patronales dans des quartiers, comme celui de Saint-Sébastien, ou le quartier de Loborio, et là, on retrouve vraiment cet esprit de l'isthme. C'est une race très mélangée et les femmes ont quelque chose de très curieux. Alors, je me suis arrêté sur place, je me suis dit, ça va être génial, on va vivre cela de façon époustouflante. Et finalement, au moment où j'ai mis le pied par terre, j'ai commencé à manger du sable. C'est-à-dire que l'isthme, lorsqu'il est balayé par les vents qui viennent par exemple de l'Atlantique au Pacifique, ce sont des tempêtes absolues de sable. Il y en a partout. Vous êtes au restaurant, vous avez les dents qui grincent parce que vous avez du sable.
Manger du sable.
C'est génial. Vous vous mettez au lit et vous ne pouvez même pas vous retourner. Vous avez l'impression que vous vous frottez à quelque chose de très désagréable. Il y en a partout, même sous les portes, enfin ça glisse de partout. Je vous avoue que je suis resté 48 heures à Ruchitán à ne pas voir l'horizon à 10 mètres. Et je suis remonté d'un seul coup jusqu'à Mexico. Ça a été ma première escapade dans l'isthme. Mais j'y suis retourné l'année d'après par vengeance. Et là, je suis tombé sur ces fêtes patronales que j'évoquais. Il y en a d'ailleurs au mois de mai, il y en a d'ailleurs au mois de juin, au moment de la Saint-Pierre, le 29 juin. Et ce sont des fêtes patronales de chacun des quartiers, soit de Ruchitán, soit de Tehuantepec. Je les jumelle parce que ce sont des villes assez semblables. Ce sont les plus riches de l'état de Oaxaca. Je disais que c'était le plus grand état indien. Il y a une richesse agricole dans un terrain plat.
C'est donc des fêtes commerciales ?
Non, ce sont des fêtes religieuses.
Ah, pardon.
Ce sont des fêtes en fonction des grands saints. Et là, on va se retrouver en fait surtout avec ces femmes qui... c'est quelque chose d'incroyable. Je crois que ce sont les femmes qui m'ont fait flasher le plus au Mexique. C'est le summum du charme. Elles sont vêtues, comment est-ce qu'il faut vous dire, elles ont un costume qui est brodé et puis elles portent de grandes coiffes, enfin des coiffes absolument époustouflantes. Ça s'épanouit carrément autour du visage. On a l'impression de voir une énorme fleur, une marguerite, tiens, avec
Elle est faite de quoi,
la partie jaune. C'est de la dentelle à mi-donner. Et bien sûr que ça retombe un peu comme une traîne à l'arrière. Ça a beaucoup d'allure. Ce sont des sortes d'ailes, comme des ailes d'albatros, vous savez, qu'on pourrait mettre comme cela autour du visage. C'est très serré. Et en même temps, ça retombe dans le dos avec des plis extrêmement savants. Et ça a une allure folle. Et le vêtement lui-même, le reste du vêtement, c'est-à-dire que les vêtements de fête de ces femmes de Tehuantepec ou de Ruchitán, c'est un huipil. Le huipil, c'est une blouse très courte qui est faite un peu comme une chemise sans manches. Et la curiosité, c'est qu'on y a déjà mélangé des apports occidentaux, c'est-à-dire il y a alors les couleurs, il y a du rouge, il y a du marron, il y a du violet, vous pouvez avoir par exemple
couleur très vive.
Du noir, mais c'est du velours. Hein. C'est du velours, ce fameux velours très très doux comme ça et qui donne justement un ton très profond. Et c'est brodé par-dessus avec des fleurs, avec des guirlandes. Et surtout, on utilise des fils de soie ou des fils d'or multicolores. Alors ça saute aux yeux. Et puis, elles ont une jupe qui est également en velours avec de la soie et du satin. Tout cela est mélangé et c'est orné des mêmes motifs que le huipil. Et ça se termine par des larges volants, toujours avec ce côté extrêmement brodé, des volants plissés qui sont à mi-donner et qui rappellent exactement le haut, c'est-à-dire la coiffure.
Donc,
vous voyez mieux avec une robe très longue, comme ça, la taille très, très serrée.
Elles sont donc très belles.
Et cette tenue est rehaussée de quelque chose qui m'a toujours ébloui. Quand on les voit, par exemple, venir jusqu'à Oaxaca pour la Guelaguetza, qui est une grande fête locale, les femmes de Ruchitán, les femmes de Tehuantepec, vous tombez. Ce sont des coffres-forts ambulants. Elles portent sur elles des dizaines et des dizaines de bracelets, de colliers d'or, et c'est du filigrane. C'est vraiment travaillé de façon extrêmement
raffinée.
Qu'elles
ont pour elles ou qu'elles vont vendre
par la suite ? Non, c'est leur bijou de famille. Les ancêtres ont remis cela.
D'accord.
C'est vraiment l'héritage absolu de la femme de Tehuantepec. Et je dirais que c'est même, il y a un côté très matriarcat. On sent bien qu'elles commandent, elles ont une allure fantastique. Et je dirais allure d'autant plus que quand on visite cette ville et qu'on va par exemple au marché.
Voilà. Elles ne sont jamais accompagnées par leur époux ?
Non, rarement. Elles ont ce côté matrone, elles ont ce côté c'est moi qui suis là. Et lorsqu'elles sont en vêtements de fête, bon, la coiffe les empêche d'avoir quoi que ce soit sur la tête. Mais quand elles sont en vêtements communs, elles portent toujours quelques bijoux. Et je dirais qu'elles ont cette habitude de porter des grandes corbeilles sur la tête. Ça a une allure absolument folle. Vous prenez une gitane avec ce qu'elle a de plus érotique, si vous voulez, parce que c'est vrai que la gitane a une allure, il y a le côté flamenco comme ça.
Et il y a le côté lascif aussi.
Et vous mettez le côté tropical en même temps, vous mettez une peau un petit peu plus douce et je dirais même plus colorée comme cela, avec ce petit côté indien et ce petit côté noir. Parfois, il y a un mélange, il y a même les Chinois qui ont été dans le coin. Et vous faites porter cette corbeille par une femme qui a juste la taille qui ondule en restant très droite. Son cou est parfaitement droit. C'est vraiment la princesse absolue. Et puis aujourd'hui, elles sont installées en général sur des petits pousse-pousse. C'est-à-dire que les hommes poussent.
Ah, d'accord, donc c'est les hommes qui pédalent.
Ah, oui, carrément. Et elles sont assises de manière princière. Et très souvent, lorsqu'elles sont chargées.
Justement, j'allais vous demander où était leur époux, mais. Donc les époux qui poussent.
Les époux ne sont pas là, ce sont les époux d'autres femmes qui sont là pour pédaler sur leur pousse-pousse. Ça m'est même arrivé d'en voir qui déposaient des quantités de fruits et de légumes qu'elles viennent chercher au marché dans le fond de la petite remorque et qui se tiennent debout avec elles-mêmes un panier sur la tête et le tout roulant. Ça a une allure, on dirait véritablement une procession avec une vierge mise en valeur comme dans les grandes processions d'Espagne.
Donc en fait, elles se retrouvent toutes ici. dans ce lieu.
Oui, parce que disons que le costume local est porté surtout à Juchitán et à Tehuantepec. Et j'évoquais tout à l'heure la fête. Alors, lors des fêtes, il y a des danses qui se font dans des tout petits pavillons qu'on a construits volontairement. Alors, on construit ça en bambou et on met simplement une toiture avec des feuilles de palmier, enfin des palmes. Et c'est spécialement bâti pour la circonstance devant la maison, par exemple, du majordome, puisque je vous parlais de religion. Et là, en l'occurrence, on va faire des danses modernes, comme la musique que vous avez mis tout à l'heure, mais surtout les Lloronas. La Llorona, c'est une chanson tellement populaire, c'est un peu le rang des...
Ça veut dire pleurer, non ?
La Llorona, c'est la pleureuse, oui. C'est un peu le rang des vaches des Mexicains, c'est une chanson très connue. Mais les Lloronas, ce sont des danses, comme il y a par exemple les danses qui s'appellent les tortugas, les tortues. Hein. Et c'est une danse de la tortue où on voit...
Mais
alors là, il y a un couple.
C'est doux au niveau musical, c'est quoi ?
C'est merveilleusement doux, parce qu'on dit par exemple « Vos de la marimba que cantan », c'est vraiment... Vous savez, les marimbas, ce sont des instruments qui viennent, qui sont d'origine africaine. Ce sont des xylophones de bois. Et les bois précieux, lorsqu'ils sont frappés par du caoutchouc brut, comme on l'utilisait à l'époque précolombienne au bout d'un bâton, il y a un son à la fois cristallin et sourd, comme cela. Et les rythmes même nous donnent l'impression d'avoir un écho qui s'arrête lui-même et qui freine en même temps. Donc c'est extrêmement doux, c'est en même temps trop lent, et c'est un rythme qui n'en finit pas. Vous pouvez passer des nuits entières. La danse de la tortue, on ramasse par exemple les œufs de tortue par terre et on les jette dans le tablier en face. C'est l'homme qui le fait avec un chapeau du début du siècle, comme on imagine le Mexicain avec son velours. Et puis il y a la sandunga. La sandunga, rien qu'à prononcer le mot, c'est encore plus lascif et c'est encore plus doux. La marimba est juste à l'horizon. La musique du côté de Oaxaca, c'est en même temps le corps et surtout la danse, l'ondulation que j'évoquais tout à l'heure.
Bye.
Maurice, parlez-moi encore de ces danses. Donc c'est la danse de la Llorona, c'est ça?
La Llorona, c'est une des danses.
De la, pleureuse,
la, la pleureuse, mmh. Il y a eu la tortue et on a terminé avec les sandunga. Les sandunga, c'est vraiment le son qui est le plus particulier dans cette région. Quand on dit sandunga, on a aussi un peu ce côté Llorona. On sent cette espèce de mélancolie. C'est vraiment le terme qui correspond à la fois à cette façon de danser. Parce que imaginez-vous qu'une fête...
C'est comme un peu c'est... le tango hein, pour les Argentins, mais...
Oh
côté
oui,
mexicain, non
avec un côté beaucoup plus tropique, rajouter quelques 20 ou 30 degrés de plus en bonne
saison.
Au
niveau mélancolie, donc, je
disais. Ah oui, tout à fait. Mais par contre, c'est quelque chose de plus indigène, hein. C'est quelque chose de plus indien aussi dans la forme. Et puis, il y a ce côté noir qui est assez étrange, qui mélange tout cela avec les instruments de musique.
Et donc, en fait, elle danse où?
Alors, elle danse sous ces petits abris de bambou que j'évoquais tout à l'heure. On est juste sous la tonnelle, si vous voulez. C'est fait de toutes pièces devant cette maison qui est toujours celle du majordome, celui qui va diriger la procession. Et puis, une fois qu'on a dansé carrément tout l'après-midi, par exemple, les mariages, par exemple, somptueux. Un mariage où toutes ces femmes sortent avec 5 ou 10 kilos d'or sur elles-mêmes. C'est vraiment le coffre de chaque famille qui se présente devant vous. Elles voyagent, elles font 200 kilomètres pour aller faire une grande fête à Oaxaca avec tous leurs bijoux. Alors, il y a des pièces de monnaie anciennes et puis en même temps, ce côté filigrane, c'est impressionnant lorsque vous avez une centaine de femmes maquillées avec le chignon travaillé en volute et tresse à l'arrière, avec ses coiffes blanches qui tombent doucement. Elles font presque 2m20, 2m50 d'eau. Hein, et quand elles sont à côté de vous, elles ont de l'allure hein, avec cette taille resserrée. Même si elles ont un petit côté rondouillard, au contraire, la grandeur de ces femmes est assez étrange.
Parce qu'il ne faut pas oublier quelque part.
Ben non, elles sont vraiment beaucoup plus grandes qu'ailleurs au Mexique. Hein. Et il y a déjà une chose qu'il faut comprendre, c'est que cette ville, je parlais du port gracieux de ces femmes, mais c'est surtout ce mélange qui fait que il faut imaginer que c'était d'abord la plus grande station navale pratiquement du Mexique au 19e siècle, et que c'est là que les marins du monde entier pouvaient se retrouver. Or, que font les marins dans les ports, si ce n'est faire des enfants? Et en l'occurrence, c'est uniquement par ce mélange ethnique incroyable que la femme de Tehuantepec est si parfaite. Alors, à la fin de l'après-midi, quand vous avez dansé comme cela, bien sûr que les hommes sont présents. Je dirais même que si...
Oui, si les femmes dansent, les hommes, que font-ils?
C'est vraiment, je dirais, c'est le seul endroit où je sens véritablement une tentative de séduction absolue de la femme, enfin de son partenaire féminin. C'est vraiment très volontaire. Parce que quand on pense au Mexique, on pense à un côté plutôt macho. Hein, on pense plutôt à l'homme qui, lui, cherche... Et séduit. Eh bien, Tehuantepec, c'est vraiment la matrone, le matriarcat qui il est plus petit d'ailleurs, involontairement. Il est là, en train de se baisser, de ramasser des œufs de tortue, les lancer dans un tablier.
Bien sûr.
Et elle est somptueuse.
Elle mesure 2 mètres de haut.
C'est de la séduction.
Coiffe comprise.
Et alors, on interrompt les danses vers la fin de l'après-midi. Alors, à ce moment-là, vous les voyez toutes à pieds nus. Partir, ça c'est dans les petits villages hein, aux alentours de Rochitan, il faut avoir l'audace comme ça de bien observer, même sur un marché qui a l'air très simple au départ, lorsqu'on en croise une et qu'on la suit et qu'on voit un peu comment elle fonctionne, on l'imagine beaucoup mieux en procession. Alors vous avez les bannières qui sont en tête, ces bannières qui sont beaucoup plus simples, ça ne ressemble pas à nos drapeaux, vous savez, on met le mât et puis on tend en travers une perche de bois, ça glisse doucement, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a la chaleur, et on va jusqu'à l'église du quartier comme cela, avec ce silence, j'irais silence de la marche, puisque tout le monde est pratiquement à pieds nus. Ça a une allure absolument folle. Ça donne une impression de quelque chose, de une fois de plus, d'ondulé. Il y a encore un côté danse dans la procession même. Et puis la ferveur de ces gens-là qui est très particulière. Cette douceur que j'évoquais, je ne la connais que dans cette région-là. Or, nous sommes chez des apothèques. Voilà un terme qu'on aime bien prononcer. Ce sont les Indiens qui ont occupé petit à petit toute la région de Oaxaca. Et si on cherche par exemple l'exotisme dans ce coin-là, on peut être parfois déçu, parce que bien sûr quand on part de Tehuantepec, on était là sur le marché, on est resté sur la place principale, on a croisé quelques-unes de ces femmes, je disais entre 11h et midi, c'est la fin du marché, puis vous dites tiens, c'est vrai qu'en regardant la carte, qu'on soit à Rochitan ou à Tehuantepec, le Pacifique est tellement près, si on allait jeter un coup d'œil. Mm-hmm. Et on va faire quelques kilomètres, alors si on part de Rochitan, on est assez vite, on aperçoit de l'eau et encore de l'eau, on n'est pas vraiment tout de suite au bord du Pacifique, mais il y a deux lieux qui s'appellent La Ventosa, un qui se trouve près de Salina Cruz. Salina Cruz, c'est à une quinzaine de kilomètres de Tehuantepec. Alors bon, vous prenez votre route, c'est plat, et ensuite vous avez quelques collines finales avant d'arriver au Pacifique. Vous tombez sur
on
cette
y va
ville.
Comment au Pacifique?
On y va
toujours en bus,
toujours en bus ou par la route normale. Ouais. Et il y a des chicanes. Je veux dire par là que Salina Cruz, comme c'est c'était le port lui-même de Tehuantepec, finalement, il y a une rivière aussi qui traverse le village avec des ponts. Vous avez les lavandières, les gens qui se baignent. Enfin, il y a une ambiance de nouveau très très douce. Ça fait souvent penser presque à l'Afrique plus qu'au Mexique, hein, dans l'allure et la façon de fonctionner, même si les gens ont gardé ce côté très bronzé et très mexicain. Et quand on arrive à Salina Cruz, on se dit que c'est une ville qui vraiment ne devrait plus exister. C'est une espèce de ruine absolue. Je l'ai connue encore avec des maisons en bois. Toute la ville était en bois parce qu'elle était chinoise. Et il y a un port qui ressemble à tous les ports, sale, avec des pétroliers dans tous les coins. Il y a une raffinerie de pétrole immense dans une baie qui a dû être sublime. Et on se dit, le Pacifique, je ne le trouverai jamais. Et derrière cette baie, derrière quelques... amoncellement de rien du tout, eh bien vous trouvez une petite crique qui s'appelle la Ventosa, donc l'endroit venteux, avec une petite plage qui a presque l'air ridicule. Mais vous dites, bon, c'est pas Acapulco, mais c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on ne trouve plus ailleurs. Et là, il y a simplement le paradis.
Donc, il y a tout ce qu'il faut.
Le paraíso, vous vous arrêtez, faites attention, faut quand même faire surveiller la voiture, parce que on est dans un quartier, dans un endroit qui est un petit peu no man's land, comme cela. Et vous descendez dans du sable fin, avec quelques cocotiers un peu crapoteux dans cette descente, on n'a même pas l'impression qu'on va arriver dans quelque chose. Il y a quelques tonneaux, vous arrivez sous un auvent qui est fait surtout de tôle, et tout à coup il y a une dizaine de hamacs, trois poteaux peints en bleu, et puis la mer. Et puis devant la mer, quelqu'un qui est capable de vous griller quelques crevettes, et là, tout à coup,
joie.
On y est. C'est-à-dire que tout à coup, avec quelques vaguelettes, avec un peu de bruit, et là, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ces régions-là. C'est que finalement, comme pour les femmes de tout à l'heure qui se mettent à pieds nus et qui font la procession, si vous tombez en semaine, il y aura peut-être peu de monde, mais s'il y a même 10 ou 15 personnes qui se prélassent dans ces hamacs qui ont déjà bien servi, même les mailles commencent à se desserrer doucement. Bien sûr qu'on ne fait rien, hein. On laisse le couteau pour ouvrir la noix de coco de côté, on vient d'en boire une, ça suffit, on ronge éventuellement un petit rien, les crevettes sont bientôt cuites. Ce sont des gens du lieu. Alors les femmes se baignent tout habillées. Les hommes ont un petit côté pudique aussi, ils vont laisser leur maillot, pourquoi pas, et on a même l'impression que parfois ils profitent de laver leurs pantalons. C'est une autre mer, c'est un autre lieu, c'est quelque chose qui fait penser qu'il y a des gens simples partout dans le monde, et que la mer dans ces cas-là a peut-être une autre couleur, elle est plus vraie, elle est plus belle, les crevettes sont délicieuses.
Oh,
On vient tout juste de déguster des crevettes, on a fait trempette dans le Pacifique, là on reprend la route de Tehuantepec jusqu'à Oaxaca.
C'est-à-dire qu'en revenant sur le l'isthme et sur la Panaméricaine finalement, eh bien c'est vrai que nous allons... Bah, ça me rappelle mon escapade, là j'étais arrivé à Juchitán, j'avais mangé du sable pendant 12 ou 24 heures, et tout à coup c'est le ras-le-bol parfait, vous refaites 800 km d'un seul coup, vous remontez jusqu'à Oaxaca sans vous poser la question, et vous traversez tout cela et vous vous retrouvez à Mexico simplement parce que vous dites c'est pas mon endroit. Or, il est vrai que lorsqu'on part de Tehuantepec, plaine, tropique, canne à sucre, enfin tout ce qu'on peut rêver en tropique au point de vue agricole, et tout à coup vous rentrez dans le massif vraiment montagneux de cette Sierra Madre. Alors ça c'est un sac de nœuds absolument incroyable qui va vous amener jusqu'à Oaxaca. Donc c'est vraiment une route de montagne absolue qui va vous obliger sur 200 km à faire des milliers de virages, et vous avez des canyons qui sont très abrupts, et au bout d'un moment bon, vous allez trouver que ce côté sauvage est ponctué par des églises dominicaines, augustiennes. Les augustins se sont aussi établis en même temps que les franciscains. Ce sont des blocs comme ça qui sont posés, un village autour. C'est aussi un côté western. Parce que tout à coup, vous avez arrêté de voir le tropique et vous avez glissé petit à petit dans le désert. Mm-hmm. Cailloux, jaune, ton de calcaire un peu grillé et noir. Et petit à petit, vous voyez surgir les premières les agaves, ensuite les premiers cactus. Et là, je crois que c'est peut-être la région la plus incroyable de cette route. Au détour d'un virage, vous vous dites « j'ai quelque chose dans l'œil qui ne va pas ». Vous apercevez des petits traits partout. Sur ce fond de falaise comme cela qui grimpe souvent de 300-400 mètres en dessus de vous, et votre route longe une rivière qui ressemble à un oued un peu sèche comme cela, et à l'horizon il y a des petits traits verts pâles partout. Ce sont ces cactus cierges ou alors ces cactus orgues, mais surtout les cierges qui sont impressionnants. Ce sont des fûts parfaits, bon, le diamètre n'est pas immense, c'est un peu plus gros qu'un CD, et finalement ça monte à 5, 6, 7 mètres, les plus gros font carrément 33 tours au centre. Mais c'est la perfection de ce trait, et ils sont souvent côte à côte, tous les 50 cm ou tous les mètres ou tous les 2 mètres, il y en a un autre, et vous couvrez ainsi des surfaces, des kilomètres entiers, où vous n'aurez que ces cactus qui ponctuent ainsi les acacias et les épineux qui eux font un fond un peu gris. Comme ça, parce qu'ils donnent toujours l'impression d'être un peu secs.
Donc là, vous êtes dans le désert. Oui, c'est carrément le désert.
Une sorte de désert avec des oasis qui ponctuent cela parce qu'il y a un peu d'eau, parce qu'on a quand même ces villages que j'évoquais.
Mais est-ce qu'on rencontre, est-ce qu'on est seul?
Alors plus seul que ça. Oh, c'est même assez impressionnant sur le plan routier. Ça me rappelle des souvenirs tout simples.
Donc on ne croise pas d'habitants du coin
Non, au bord de la route, il n'y a vraiment rien. Ce sont des endroits qui sont souvent touchés par des pluies diluviennes au moment de la saison des pluies. Donc souvent, les routes disparaissent complètement. Et puis, on est là en train de faire des travaux. C'est-à-dire, on a l'impression que toute l'année, on est en train de refaire cette route montagneuse parce que tout à coup, une falaise est tombée et que tout est parti avec. Donc là, il y a un côté presque effrayant dans la façon de se sentir isolé. Ça va même plus loin. Il m'est arrivé de passer 4 stations d'essence sans retrouver de l'essence. Et tout à coup, vous êtes à bout d'essence et vous dites « je n'y arriverai jamais, il me reste encore 100 km et je ne pourrai pas continuer ». Et bon, le hasard fait que vous pouvez rencontrer les anges verts, c'est un peu les policiers, enfin ces aides style Touring Club Suisse qui ponctuent un peu les routes du Mexique, et qui vous disent « ne vous inquiétez pas, si vous arrivez au sommet suivant, vous coupez le moteur, vous vous laissez aller vous allez trouver en bas un village, et si jamais il y a une boutique ou l'épicerie, un tel qui a encore un peu de réserve, qu'est-ce que vous avez, de la super ou de la normale ?» Et on finit toujours par s'arranger. Mais c'est impressionnant de solitude. Et je dirais même plus, lorsqu'on a l'occasion de s'arrêter le long de cette route et qu'on pénètre dans cette forêt, parce que c'est une véritable forêt de cactus, eh bien là, il y a l'isolement, puis il y a tout à coup le bruit. Le bruit des quelques insectes qui vivent encore là. On a presque l'impression d'entendre la sonnette d'un crotale qui s'agite. Il n'y a rien, il y a vous, mais il y a surtout cette nature, et puis l'eau à l'intérieur des cactus. Just to see her, just to touch her, just to hold her in my arms again, one more time. If I could feel her warm embrace,
Voilà, là on vient tout juste de passer cette étendue de cactus.
Quand vous dites étendue, il faut bien comprendre qu'on est dans des canyons véritables. Donc c'est vraiment des décors qui sont posés comme cela, avec les cactus qui ponctuent tout cela, jusqu'à perte de vue. Le bleu du ciel est très haut. Hein.
Mm-hmm. Et on se dirige du côté de Oaxaca.
On grimpe, on tourne, on monte, on redescend. Et ces forêts de cactus, je disais qu'il fallait les visiter, qu'il fallait les traverser. Faites attention aux épines, mais c'est un grand moment de se trouver au milieu de ces cactus sierges qui montent souvent à 10 ou 15 mètres en dessus de vous. Mm-hmm. Là, c'est vraiment, vous savez, l'image classique, le petit bonhomme et le grand cactus. Et puis surtout, la température. Le cri-cri des insectes, le crotal de tout à l'heure, c'est vraiment ce sable, ces cailloux, la pierre surchauffée. C'est le rêve absolu qu'on a du Mexique quand on ne connaît pas le Mexique. Hein. On est surpris d'ailleurs par la densité de cette végétation sèche et surtout de cette humidité qui est encore contenue dans tous ces cactus.
C'est carrément une forêt.
Oui, il suffit d'en voir. Par exemple, moi j'adore les voir lorsqu'ils sont morts. Il ne reste que le squelette, un peu comme de l'éponge, comme ça, avec des nervures, avec tout ce fond de comment est-ce qu'on pourrait indiquer cela ? Il y a une véritable architecture à l'intérieur des cactus hein, qui tiennent de rien, qui est assez fragile finalement et qui en même temps le maintient à des hauteurs pareilles. C'est une superbe architecture. Et lorsqu'on sort de ces grandes gorges, il y a encore plusieurs de ces villages avec un aspect colonial et très tranquille. On a aussi l'impression de retrouver le chapeau sur le sommet du crâne et quelqu'un qui est couché près d'un mur tout jaune et éclairé en fin de journée. Il y a cette dernière vision de la Sierra Madre derrière vous, avec des paysages à l'infini, avec des sommets qui se répètent, qui finissent sur des bleus de plus en plus clairs, et avec ces couleurs qui sont à la fois forêt et pierre. Et tout à coup, l'ouverture, une espèce d'étrange respiration. Vous êtes à 1600 mètres et devant vous, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais presque à l'infini. C'est tellement vaste. C'est une des plus grandes vallées que je connaisse. On a des visions qui vont jusqu'à 80 kilomètres et vous vous dites, c'est la richesse. Ça sent la richesse. C'est la grande vallée de Oaxaca. Elle est multiple. C'est une espèce d'immense Y comme ceci. Elle a appartenu au marquis de la vallée de Oaxaca, à Cortés. C'était le cadeau le plus royal qu'on pouvait lui faire. Et c'est vrai qu'il a été ébloui par la richesse de l'endroit. Et là, lorsque vous débouchez dans la vallée, vous découvrez d'abord ces immenses champs de mezcal. Le mezcal, c'est de nouveau une agave, beaucoup plus fine, beaucoup plus bleue, beaucoup plus courte par les épines, enfin par les épées, si vous voulez. Et là, on les coupe. Mmh. On ne garde que l'ananas, on l'enterre, on le laisse fermenter. Vous avez ces vieux alambics, vous traversez des villages, ça sent à la fois la fermentation là qui est souterraine, et en même temps cet alambic qui va vous donner un alcool à 40 degrés. Vous l'aurez passé à travers de la viande. Avant, on le faisait directement avec des vers de maguey, des petits vers blancs qui vivaient à l'intérieur du cactus. On filtre tout cela. On y met aujourd'hui plutôt du poulet ou de la chair vive de poulet afin de donner un goût. Ça se sert dans les bouteilles. C'est un alcool redoutable. Dès qu'on le touche,
40 degrés.
On est à 20 cm du sol. C'est-à-dire, c'est le seul alcool, c'est personnel, hein, mais tequila, pas de problème. Mezcal, on plane de façon un peu étrange. Rien à voir avec la mescaline, c'est simplement une autre variété. Elle est un peu plus huileuse, un alcool un peu sournois tout de même. Une façon de découvrir Oaxaca et d'imaginer que les précolombiens, lorsqu'ils ont fait des Grecs du côté de Mitla, qu'on visitera
la semaine prochaine,
pourquoi
dimanche,
pas, ouais. Eh bien, on comprend qu'il y a effectivement un peu de mescal dans l'air ou un petit rien de drogué comme ça. On va commencer à rêver. L'art précolombien de la vallée de Oaxaca, c'est du zapothèque, c'est du mixtec, déjà rien que des noms comme ça fait rêver.